Une sorte d'horrible pays de cannibales qui en fait sont aussi cannibales que ça, une sorte de croisade en fait. deux semaines, c'est le dernier du suivant en apparence. C'est le troisième du quatuor, si je veux dire. C'est un gladiateur qui se prend très au sérieux, qui est beau, qui est fort, qui a tout pour lui, etc. Et son monde va s'écrouler un petit peu par ailleurs. Donc, tous ces gens ont de très, très grosses certitudes, extrêmement violentes, et elles s'écroulent comme des châteaux de cartes. Et lui, c'est un petit qui a perdu la mémoire, qui s'imagine qu'il lance le couteau, qui est un gentil assassin, petit à petit, sans vouloir se brûler le bouquin, il commence à se percevoir qu'il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Mais ils sont effectivement tous baignés de violence, je suis super désolé, je vais faire très calme la prochaine fois.
C'est assez nouveau ces personnages de combattants et de combattantes dans votre œuvre. Mais le personnage de Ravel vous apparaît d'emblée comme une chasseresse. La scène où elle apparaît est une scène où ses qualités martiales sont d'emblée mises en lumière.
Mais effectivement, Ravel, on l'a découvert en train de chasser les dragons. Elle les tue, hein. Désolé pour ceux qui aiment les dragons, c'est vrai qu'ils sont pas très très sympas. Donc on a des deux comme ça, mais Ravel, c'est d'abord la princesse d'un royaume qui a toujours été attirée par le combat, qui s'est débrouillée pour apprendre à se battre en traînant le chef de la garde du royaume jusqu'à ce qu'il lui apprenne. Il a accepté, il s'est rendu compte qu'elle était très douée, et puis à 17 ans, il se trouve que son père a voulu la marier, qu'elle aime les filles, qu'elle n'était pas trop d'accord, et elle s'est mariée. Elle est partie à l'autre bout du monde, justement, et elle s'est retrouvée dans cette tribu où, entre autres, il chasse les dragons. Et elle s'est là pendant un petit paquet d'années, sauf qu'un jour, sa mère, la reine, est malade, et elle décide de le rentrer dans son royaume. Son trône, puisqu'elle est légitime. Voilà. Donc elle a toujours eu cet attrait pour le combat. Je dirais que c'est pas un combat. Elle est scalée, elle est petite, elle est menue, alors elle est musclée du coup parce qu'elle se bat, mais elle n'a pas une carrière de déménageur. C'est forcément un combat qui est aussi dans la finesse. C'est pas bim dans ta gueule, hein. Ça ne peut pas marcher avec sa confiance. Donc elle a appris à se battre, c'est une artiste du combat, vraiment.
Oui, on va pouvoir sauter effectivement sur le dos du dragon, ouais, comme le danseur un peu, parce qu'il y avait effectivement les deux, ces deux figures de combattants de manière très nette chez Gabriel Gatz aussi. Hein. La grosse brune, les deux combattants marraines, hein, sont dans cet endroit-là. Paul Béorn, le personnage de Charles, ouais, est aussi un super combattant qui se redécouvre, qui est un déserteur d'une armée toute puissante. Sa science du combat au service d'autres valeurs.
Oui. Un petit peu comme. Dans un village, à moitié mort, qui le soit, en échange de
pensée, c'est ce qu'il voit, ce qu'il ressent. Et donc, ça permet d'être très immergé dans le combat et de, je l'espère en tout cas, de le ressentir avec plus d'intensité, de manière à être vraiment dedans et avoir envie de savoir ce qui va se passer et ressentir un peu le danger qu'il y a, même pour quelqu'un d'aussi, d'aussi puissant, d'aussi fort que lui. Il est constamment en danger sur un terrain de combat, il est constamment en danger s'il y a une guerre, s'il y a une bataille en jeu ou autre. Et ce danger, il est perceptible, et à partir de là, il est intéressant.
En fait, il y a une mécanique extrêmement perverse que je confesse, qui est l'esthétisation de la violence, en fait. Et je donne à 100% là-dedans mes culpables, je suis un peu manga dans la façon de présenter mes combats. C'est-à-dire que les guerres, je n'ai pas vécu, mais je suppose qu'elle est infecte. C'est-à-dire que ça doit être tué, ça doit être atroce. Il y a des gens comme Justinien Gray qui l'ont vécu de façon absolument admirable, très forte, etc. Moi, je fais un peu du jeu vidéo. C'est-à-dire que les combats, ils sont relativement esthétiques, et c'est dans les longues traînées de sang sur les coups de sabre, on va avoir des gens qui tournent au bras, on va avoir les gens dans l'un coup, c'est magnifique. Mais les guerriers détruisent 3, 4, 10, 20 personnes dans un combat, c'est très joli, très esthétique, c'est totalement pas réaliste au final. Alors, ça l'est dans la façon de construire. Aujourd'hui, je fais de longues années d'armature, j'aime bien ça, donc en fait, je visualise alors les combats. Mais très honnêtement, ils sont très esthétisants, en fait. Et je crois que c'est partie, en fait, de la construction de la fantasy. Autant l'histoire, ce serait un peu ridicule, le fait de réduire la guerre à quelque chose de très esthétique, comme ça, c'est presque mal à mettre. Autant en fantasy, c'est un petit côté, c'est un côté agréable, drôle, ça vous porte. Et par exemple, la vengeance, un héros qui s'acharne sur un groupe d'ennemis, c'est très sympa et très puissant en fantasy, et c'est atroce dans la vie, en fait. Donc voilà, c'est vraiment c'est ce côté très esthétique, et encore une fois, un peu pervers, parce que du coup, tout le monde est très, très content de la violence qu'on vous fait passer. C'est mal.
Oui, alors du coup, ça, c'est la pratique des arts martiaux qui te permet de décrire, parce que c'est une question qu'on se pose, comment on décrit une scène de combat, comment on la visualise.
Le découpage, oui, honnêtement, c'est-à-dire qu'on se dit, je n'ai pas fait ni d'escrime, ni de combat à l'âge double, parce que personne ne fait combat à l'âge double. Disons que le positionnement du corps dans l'espace à partir du moment où le combat est enclenché, le positionnement par rapport à plusieurs adversaires, etc. Je pense que la pratique des arts martiaux aide à ne pas être complètement absurde. Après, je suppose que si je me trouvais dans une bataille au Moyen-Âge, d'abord je passerais tout le monde de paix, j'essaierais de faire du jujitsu et je mourrais. Mais ça donne un semblant de crédibilité à ce qui se passe et surtout ça donne un. Comment je peux dire, c'est l'ordre de combat qui est à comprendre. C'est très technique en fait, mais je pense que c'est.
Mais non, non, le ring joue plus, mais ouais, je suis passé par les arts martiaux aussi. Donc c'est clair que ça aide. J'ai fait un tout petit peu d'esprit, mais vraiment pas assez pour pouvoir m'en servir plus que ça, à part la sensation. Certaines sensations, certaines positions qui m'aident à crédibiliser ce que ressentent les personnages. Voilà. Mais à part ça, ce qu'ils ressentent physiquement, je veux dire, à part ça, non, pas plus que ça, mais on est tous baignés aussi de d'autres romans, de films, de plein de choses qui nourrissent aussi, je sais pas, des scènes épiques de combat, j'en ai plein en tête, que ce soit dans des films, dans des séries, dans des livres, évidemment. On s'en resserre de tout ça, ça fait partie de mes outils en tout cas à moi. Mais après, ce qui est intéressant dans le combat aussi, c'est que justement par rapport au personnage, ça dessine tout de suite un personnage, la manière dont il combat, la manière dont il va, ou plutôt s'il reste un peu en retrait, s'il attend de voir, s'il attend qu'on vienne à lui, ça dessine tout de suite un personnage aussi, ça. Et ça, c'est super intéressant à utiliser. Et puis, il y a, je pense, plus aux étudiants de savoir. Deux personnages au départ ne sont pas des combattantes. Et au fur et à mesure du livre, elles vont le devenir l'une par la magie et puis l'autre vraiment par les inventions. Assez tard dans le livre, elle y arrive, mais il y a cette évolution aussi en elle de ce qui Et donc, forcément, le lecteur est toujours un peu sur le qui vive aussi. Parce qu'on ne sait pas à quel moment ça peut arriver. Enfin, voilà, n'importe quoi peut arriver à n'importe quel moment et il y a un personnage peut mourir en deux lignes. Donc, ça crée ce petit livre-là qui est partagé par les personnages et par le lecteur, je crois.
Paul Bérard, aussi, votre roman, le 7e Guerrier Marge, comporte de nombreux épisodes guerriers. C'est un roman avec une série d'attaques sur cette petite vallée, des attaques toujours plus violentes, etc. Comment les Arabes construisent cette tension narrative et puis ces scènes particulières?
Ah, c'est très bien, parce que j'ai essayé le judo quand j'avais 9 ans, et avec un petit mot, on prend tout sur les tiens et les bleus qu'on allait après, je me suis dit plutôt qu'il fallait des romans, en fait, que de vivre ça. J'ai un peu d'escrime, quand même, juste pour savoir comment ça faisait d'avoir une épée dans la main. C'est assez rigolo, d'ailleurs. Mais en fait, c'est peut-être le gilet, hein, les épées qu'on a aujourd'hui, je pense pas ça, en somme.
Ah, mais c'est très bien, en fait, j'aurais pas ce côté-là, je pense, quand on écrit de la fantaisie. Mais en même temps, je pense que c'est pas tout à fait impossible d'y mettre un peu de réalisme quand même. Le premier combat de Jacques, il a un petit couteau, je crois, et le gars a une hache. Et il lui plante le couteau dans le pied, et il l'arme. Et il se tourne autour pendant 2 minutes, et déjà, s'il arrive à m'attraper, bien qu'il ait très mal au pied, avant 2 minutes, il m'explose la tête. Mais s'il arrive à faire tourner pendant 2 minutes, il n'a plus de son. Donc c'est moi qui vais gagner, c'est ça le combat en fait. Voilà, le chat, il y en a pas beaucoup dedans dans la patte.
C'est la série qui devait.
Et ça m'intéressait de voir que le combat n'était pas uniquement une question de donner des gros coups et de ça pouvait être aussi un calcul stratégique. Ça peut plaisir de travailler le personnage. Quel genre de personnage c'est? Est-ce que c'est juste une brute? Est-ce que c'est quelqu'un qui connaît le fonctionnement du corps humain, qui essaie d'anticiper les réactions de l'adversaire?
C'est un personnage qui peut combattre dans n'importe quelle situation.
Et tout ça, mais le Vitor à ça, il y a pas mieux de lui. Et donc, effectivement, il est prêt à se parler.
Très bien, il y a plus une volonté de réalisme, hein, tout de même, dans les combats.
Oui, c'est
un contexte historique, et justement, un rendu de l'horreur du combat.
Voilà, mais en même temps, oui, tout à fait. Alors, le côté crédible et réel est vraiment là. Mais en même temps, même dans ce côté crédible et réel, il se passe énormément de choses prenantes et entraînantes. Mais je rejoins énormément Paul dans le sens où les scènes de combat, en général, ne doivent pas être des scènes de combat juste pour les scènes de combat. Voilà. Et ce qui, je crois, est sympa dans ces scènes d'ouverture que je fais et qui sont des scènes liées à des combats, c'est qu'en réalité, on en comprend le sens et la portée qu'à la fin du roman ou beaucoup plus tard dans le roman, et on voit finalement la scène de combat de manière complètement différente après. Et ça, je trouve ça sympa. Mais pour revenir au côté réaliste, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans la mesure où on est dans l'esprit du combattant, qu'on voit quelque part à travers ses yeux, ça se passe mal à l'intérieur, mais il le fait quand même. C'est son travail, c'est son métier, c'est ce qu'il fait. Mais il ne le fait pas sans être à table. Et ça, c'est le côté réaliste aussi, parce qu'il se passe aussi des choses à l'intérieur de la tête des gens quand on combat.
Tout à fait, parce qu'il y a des aspects moraux ou éthiques qu'on va aborder maintenant après la... le potentiel esthétique. Du coup, voilà, il y a chez vous l'objectif de montrer l'impact de l'exercice de la violence sur les individus. Quand même, quoi, chez Gabriel Katzmann, s'il a dit qu'il faisait de... s'il a revendiqué une esthétisation du combat, les combattants d'arène, ils n'en sortent pas complètement...
Non, il n'en sort pas. Il y a justement la tentation de l'esthétique qui fait qu'au début, ils sont en général gorgés de violence, de fierté, ils sont un peu dire de combat. Et petit à petit, ils sont encore que les maîtresses de guerre, c'est pas la testostérone, et ils veulent de plus en plus fort et faire des enfants. Mais ils s'aperçoivent généralement au bout d'un moment qu'ils sont prisonniers de leur propre pulsion, en fait. C'est-à-dire que le danseur, par exemple, dont vous parlez tout à l'heure, qui est un des héros de Béternia, qui est extrêmement fier de lui, il est très très content, et il esthétise alors totalement le combat, il tourne sur lui-même, c'est beau, il frappe 12 000 fois, il se regarde prendre des pauses en fin de combat, par exemple. Un très beau truc, hop, pause. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, cette fille s'aperçoit qu'il est en boucle, en fait, avec sa violence, et il la vit de plus en plus mal. Bon, je ne vais pas spoiler le livre, mais c'est un petit peu compliqué. De même, dans le but de la mort, il y a un personnage qui est au début, donc le fameux Nils, je vous spoil un petit peu, dont on s'aperçoit presque par hasard qu'il y a un combattant terrible. Sur le coup, c'est une sorte de soulagement, parce qu'il se dit je suis extrêmement fort, donc en fait, je suis là, j'ai la puissance au bout des doigts, je prends une épée en main, je suis extrêmement fort. Et au final, il est victime de ça, parce qu'en fait, il a une pulsion de son ancienne personnalité qui ressort. Et donc, il ressort, et donc, c'est une espèce de pulsion de violence qui n'aime pas, enfin, au bout du compte. Donc, il commence à être victime de son propre, de sa propre puissance, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il s'est construit une personnalité en se disant, voilà qui je suis, et petit à petit, il y a son véritable moi qui ressort et qui n'arrive pas à contrôler, en fait. Maintenant, avec, on parlait tout à l'heure, qui est un médiateur de quarantaine d'années qui s'arrête pour élever ses fils tranquillou ailleurs, n'a plus du tout envie de se battre, parce que finalement, il est obligé de ressortir sa hache. Effectivement, à chaque fois, il y a cette espèce de déchirement entre ce qu'ils sont, entre cette espèce de déchirement de puissance qui les rend assez fiers et assez, généralement assez célèbres, etc., etc. Et au bout d'un moment, ils sont victimes, en fait.
C'est vraiment, c'est plutôt le. Il y a le combat chez vos héroïnes est une manière d'échapper à une condition. C'est vraiment, elles lancent pour la violence. En général, elles sont. Soit dans une quête, soit dans un mode survie, et donc elles doivent se battre pour survivre, soit dans une quête de justice, elle est l'héritière légitime du royaume, mais elle veut reprendre son trône, mais ce trône lui revient de droit, et on ne lui laisse pas, donc elle veut le prendre. Dans cette voie, elles sont plus en mode survie, au départ en tout cas, mais effectivement, il y a ce. Mais on va sur lui, mais il y a une part de vengeance aussi, il y a tout ça. Pour Raven, c'est de la violence dont elle a envie de faire preuve, et pas forcément la meilleure option. Ça fait qu'elle arrive elle, comme un chien dans un jeu de quilles en passant de déséquilibre diplomatique. C'est quoi elle? Alors, ça, c'est le truc. Elle tombe dans le travers des femmes dans un monde d'hommes qui, du coup. C'est le seul moyen qu'elle voit pour s'imposer. Et ça ne va pas forcément marcher comme elle le voudrait, d'ailleurs. Donc après, c'est toute l'évolution du personnage aussi. Mais voilà, il y a ce. Il y a rarement la violence pour la violence, effectivement, dans mes romans. Mais Paul, c'est carrément. C'est, en fait, il y a un dessin moral très clair que j'ai beaucoup apprécié dans le 7e guerrier. Il y a vraiment. D'échapper à un conditionnement de violence chez les personnages, qui part effectivement d'une violence intégrée pour essayer de lui échapper.
Ah, exactement, c'est un enfant qui a été conditionné à se battre depuis son plus jeune âge, et il n'a qu'une idée en tête, c'est d'échapper à ça.
ça ne va pas se passer exactement comme il le souhaite. Mais c'est sa quête, en fait. C'est vraiment ce qu'il va faire du début jusqu'à la fin. Vraiment, c'est arrêter de se battre, se trouver un endroit tranquille où enfin il pourra déposer son arme et faire autre chose. Et un peu comme chez Gabriel, c'est-à-dire que malgré lui, ça le domine parfois. Le combat le grandit pas et il se rend compte. Parce que c'est vrai qu'il faudrait pouvoir échapper. Cette façon de se battre pour ce village, même si au début il a plus l'idée en tête, c'est vite parti dès qu'il aura le tourner. Finalement, il vit pour d'autres raisons, il ne peut plus rester. C'est ça, c'est un personnage relativement égoïste au départ, au début du roman. Mais le fait de se battre pour son village et non plus pour le piller, ça lui permettra de comprendre que être tout seul n'est pas exactement la meilleure façon de trouver la paix.
Oui, et il y a aussi donc, cette question de l'individu et du groupe hein, cette question des combattants, puisque dans le 7e guerrier magique, toute la technique de combat, enfin, de combat magique, elle consiste à avoir un cercle autour de soi qui va permettre aux combattants de puiser des énergies et de se rendre plus forts. Et donc il y a clairement une mauvaise façon de le faire et une bonne qui va être à trouver.
Bien et du mal, mais effectivement, il y a une bonne façon techniquement de le faire, il y a une mauvaise façon de le faire. Il y a après, dans les questions morales sont très importantes, et dans un combat, si on ne veut pas tomber uniquement dans les situations du combat et qu'on ait quelque chose de plus, il faut que le combat ait un sens, pas forcément le bien contre le mal, en tout cas, certaines valeurs contre d'autres valeurs, sauvegarde un village, c'est plutôt positif comme valeur, mais ça peut être totalement autre chose, c'est des gens qui se battent pour. Le méchant principal, il y a ces gens qui sont tout à fait honorables aussi. Évidemment, ça passe par la destruction totale de ce village et des motivations. Donc, on peut voir ce qui se passe après ça. Et Charles, au départ, il n'a pas du tout envie d'être ce gagnant. Je suppose qu'il a oublié qu'il en était un. Et il faut que Rican, la dame du village, lui dise rien pour qu'il finisse par le comprendre et par l'admettre. Et en effet, pour être le super gagnant qui est au fond, il va falloir qu'il abandonne cette idée qu'il est tout seul au monde et que. Se trouvent des compagnons de cercle. Donc des gens avec qui ils nouent les liens d'autre chose que de combat, justement des liens d'amitié, d'affection et d'amour, qui font qu'ensemble ils vont pouvoir être beaucoup plus puissants que chacun séparément. Alors oui, ça paraît un peu naïf comme ça, mais au fond je pense que c'est aussi ce que cherchent toutes les armées du monde, c'est-à-dire des groupes soudés où les gens s'entraident les uns les autres, qui sont beaucoup plus efficaces que une personne tout seule sur le terrain. J'ai fait un service militaire, j'ai le dernier, je pense, sur cette terre qu'on a fait. Sur cette terre, donc.
Aucune expérience.
Oui, c'est des gens toujours très vieux quand ils travaillent. Et au service militaire, on vous explique au départ, on vous explique comment on monte très vite. On vous prend un petit groupe d'appelés, une vingtaine de personnes, et on est plus bactères, on leur fait faire des tables de force très épuisant. Le but de cet exercice, c'est de former un groupe cohérent qui s'entraide, qui se serre les coudes, non, c'est pas ça. C'est ça, les coudes. Et donc, cette idée-là, je voulais la traduire en fantaisie par le fait qu'un cercle de personnes dont on se rapproche vous rend en fait beaucoup plus fort que quand vous commentez tout seul. Moi, j'ai pas fait le cas. C'est une pure supposition, mais c'est ça. Toi, l'écrit normalement permet de ne pas faire des choses que j'ai pas du tout envie de faire.
C'est donc l'exaltation effectivement de valeur de solidarité, de partage jusque dans le combat. C'est un peu aussi le cas de la compagnie qui exerce autour de Cossigane.
C'est plus de la loyauté que de la solidarité. C'est une question de loyauté entre les hommes d'une même compagnie, d'une de ces grandes compagnies. Et dans le cas du bâtard de Cossigane, tous ces hommes ont été choisis avec soin, les uns après les autres, et donc il a un lien particulier avec chacun d'eux. Donc c'est à peu près la seule chose qu'il retient parfois, c'est de penser à préserver ces hommes, si possible. Mais si c'est pas possible, tant pis. Mais voilà, il essaye au maximum de les préserver. Et son comportement par rapport à eux, comme c'est un chevalier extrêmement charismatique et qui a eu une influence forte, forte loyauté, mais en même temps, il peut arriver que certains d'entre eux aient des doutes ou se posent des questions sur le fait de suivre ou non ces ordres, de continuer à le suivre quand ils prennent des décisions qui peuvent. Il y a encore une fois cette recherche de réalisme, de réalité dans la construction du groupe et se replacer dans une époque où la loyauté est quelque chose d'extrêmement important, les serments sont des choses extrêmement importantes, évidemment, dans la fantaisie, donc il y a en plus ce qu'on appelle des serments de sang, et donc qui impliquent des rituels magiques et qui mettent en jeu l'âme des gens qui les font, donc forcément ça lie un peu plus que de simples mots. Mais on a une vraie cohésion de groupe. Et aussi, il y a des liens d'obéissance, bien sûr, parce que quand le bâtard donne des ordres, il faut les exécuter tout de suite, il ne faut pas poser de questions, il faut faire les choses tout de suite. Et cette relation hiérarchique, elle est très présente et elle est très forte aussi. Et c'est intéressant en termes narratifs parce que parfois il donne des ordres, le lecteur ne sait pas pourquoi il les donne. Et on apprend plus tard ce qui s'est passé, ce qui a été fait, quelles répercussions ça a eu et qu'est-ce que ça a pu donner au final. Et donc l'aspect de groupe est à la fois secondaire, parce que le personnage principal, c'est vraiment le bâtard de Cassidian, on est dans sa tête tout le temps, sauf au 19e siècle, mais bon, voilà, c'est autre chose ça. Et le groupe est présent, il est très très important, mais il est aux ordres, il est une extension finalement du héros ici, avec tous les liens que j'ai évoqués précédemment.
Gabriel Katz, la confrontation de vos fortes individualités dans la part des ombres n'a rien d'une évidence au départ. C'est donc ces personnes se retrouvent là et ils vont devoir réussir à fonctionner ensemble.
Alors, en groupe, oui, alors pour le coup, j'ai été la part des ombres, c'est une sorte de, pour ceux qui savent ce que c'est une sorte de All Stars qui était une fausse bonne idée. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, si je prenais un personnage de chacun des signes, le plus de mémoire, la maîtresse de guerre éternelle, et je faisais un truc dans ça. Alors, c'est très amusant. Le souci, c'est qu'en fait, il ne faut pas spoiler les bouquins d'avant. Donc, techniquement, écrire, c'est terrible. Je ne savais pas, je le sais maintenant. Ce qui fait qu'en fait, ça peut venir dans n'importe quel sens. Donc, voilà, pour le lecteur, c'est transparent. Pour moi, c'était vraiment terrible, parce que pour le coup, je ne peux pas du tout spoiler ce qui a été fait, dit et surtout vécu par les personnages. Le fait est que dans la part des ombres, ils vont se retrouver, ils sont des gens très différents. Qui n'étaient pas liés avant, c'est pas je reprends un groupe soudé qui repart pour de nouvelles aventures. Donc j'avais le choix entre faire un groupe artificiel de personnages qui vont se retrouver comme dans un jeu de rôle, parce que de toute façon, il faut jouer ensemble, et c'est bien. Ou un groupe qui est soudé que par un intérêt commun, en l'occurrence, c'est le cas. Ils sont dans un pays qui est occupé par des envahisseurs venus des montagnes d'à côté, etc. etc. Ils prennent fait des causes pour une révolution, pour de l'argent. On parle de chien de guerre, justement, je crois que c'est la première fois qu'on parle de mercenariat, mais c'est ça.
Aussi d'autres esclaves. Et en cette très jeune fille qui ne sait pas encore qu'elle est magicienne, mais qui ça, au tout début du roman, ses pouvoirs se déclenchent. On a Guillaume qui, lui, est un épéiste, qui est très doué pour se trouver dans les ennuis, qui se retrouve esclave, mais qui est un très bon épéiste. Il y a Oreb qui a fait la, qui est un vieux guerrier qui a fait la guerre pendant des années. Il y a Faye, évidemment, qui, elle, n'est pas du tout une guerrière au départ, mais qui, pour survivre, compte plus sur ses appâts. c'est voilà, son physique. Sur Yabé, évidemment. Et il y a Thyris qui est, elle, une petite guerrière sauvage qui lance des couteaux et qui est mercenaire, en fait. C'est pas du tout au début, mais elle vient de là et puis elle se retrouve vendue comme esclave aussi suite à un mauvais contrat. et voilà, il y a ce groupe-là qui ne se connaissent pas, ils n'ont rien à faire ensemble, ils ont des intérêts. Pas du tout les mêmes, sauf qu'ils vont se retrouver le propriétaire de la même personne, qui vont s'échapper ensemble. Et donc on a ce groupe qui n'est pas du tout soudé au départ, et puis qui va peu le devenir, puisqu'ils vont rester ensemble. Donc, tu veux reprendre sur la question du groupe, ou est-ce que tu as fait le.
Non, ça m'a fait réfléchir à tout ce que vous avez dit, puisque vous parlez quand même très très bien. C'est que des gens qui sont des amis politiques, et tout.
Ça n'a pas de sens, là.
C'est que des gens qui sont complètement paumés au départ. Parce qu'ils ont été arrachés de leur village, de leur ville, ou sont des réfugiés, ou des gens comme cette noble qui enfermera, c'est-à-dire la dernière séquence de sa famille. Ou Jacques qui arrive là, qui déserte, qui est tout du coin, ou les deux réfugiés qui sont là. C'est des gens en fait, qui sont isolés, qui sont d'ailleurs méprisés par le reste de la communauté, et qui vont former leur propre groupe. Et le fait d'avoir été séparés, d'avoir été individualisés, d'avoir été marginalisés, leur permet d'avoir envie de faire en face de cette collision. Et ils savent ce que c'est d'avoir du groupe, parce qu'ils savent très bien ce que c'est d'être tout seul. Je crois que c'est tout ce que j'ai fait.
Il parle bien aussi, il parle peu, mais il parle plutôt bien. Il a revenu plusieurs fois dans vos discours la question de la combattante, hein, dans une femme dans un monde d'hommes, voilà, comment elle s'y prend. Vous avez tous des femmes, je ne sais pas pour Fabien si il y a une chute. Principalement, mais dans la symbolique,
il y a aussi Jean-Jean Brac, qui est une femme qui est chevalière et ouais, qui participe au combat, qui fait pas partie du groupe de la compagnie, mais qui participe aussi au Moyen-Âge. Il y avait quelques femmes chevaliers qui ont pris les armes. C'était pas forcément aussi décrié qu'on pourrait le croire, mais c'était effectivement rare parce que la plupart des femmes n'étaient pas en. N'avait pas tendance à essayer, à envier ce métier des armes qui, dans la réalité, est un métier des armes extrêmement sale, extrêmement dur, extrêmement violent. Et donc, c'est pas très très envie non plus.
Est-ce que vous connaissez le livre de Cendre, très bien. Le livre de Cendre, H. Alors, le nom de ses autrices, ça me fait. Voilà, je le aussi un historien qui reconstitue comment le monde s'est transformé depuis un monde magique jusqu'au nôtre, et un personnage de guerrière très réaliste dans un monde du martial qui est aussi le conflit bourguignon.
Oui. Alors j'en ai entendu parler, mais c'est Marie Gentle, c'est ça?
Marie Gentle,
voilà, j'en ai entendu parler.
Livre de son, de Marie Gentle, très bon. La question de certaines de rares femmes, c'est une femme à la tête d'une compagnie de mercenaires. Donc voilà, ça peut intéresser. Gabriel, donc là, effectivement, la maîtresse de guerre, il y avait vraiment un travail sur le fait d'intégrer un personnage féminin à ce contexte particulier des guerriers de justement, elles sont confrontées à ce monde d'âme aussi dans leur volonté de combattre. On parle dans la maîtresse de guerre. Donc, il y a ces. Pour moi, c'est vraiment un parallèle aussi avec notre monde aujourd'hui. De toute façon, ce sont des combats, des églises. Non, mais c'est un combat. C'est aujourd'hui, c'est compliqué son femme, c'est compliqué son femme, c'est compliqué. On a un peu l'impression que tout est compliqué et c'est un peu ce qui leur arrive aussi. C'est ce qui m'intéressait aussi à explorer.
Voilà, tu as dit, il y a quand même plusieurs femmes dans ce groupe, dans ce cercle.
C'est un truc récurrent, je ne sais pas, dans le premier roman, c'était la plus de la violence, c'était une femme aussi. Seulement vouloir combattre. Il y a des techniques qui fait qu'on y arrive ou pas, mais déjà il faut le vouloir. Il faut aussi qu'on ait été formé pour. En l'occurrence, dans un monde où on ne forme pas de femmes combattantes, il ne peut pas y avoir de femmes combattantes. Du moins, pas avec une bonne technique de combat, donc il y a une femme qui sait servir d'un arc, parce que comme elle est noble, elle est en chasse, donc comme elle a appris à servir d'un arc pour la chasse, et ça peut aussi servir pour les guerres. Mais on a aussi des femmes dans ce village qui vont faire mobiliser parce qu'ils sont à peu près 250.
Sur le pont tout à l'heure avec un camion pour arroser les auteurs. On voit une démo de violence qui est absolument horrible en le tirant sur le pont.